Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin GP racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdou Sal et voici l'épisode numéro 8. La Suède nous a offert de nombreux pilotes de Formule 1 de renom. Ronnie Peterson, Gunnar Nilsson, Stefan Johansson, Marcus Ericsson, Joe Bonnier, entre autres. Cependant, celui dont je vais vous parler a eu une carrière très particulière et intéressante à raconter. Imaginez ceci. Vous vous retrouvez comme batteur de studio d'un des groupes de musique les plus célèbres au monde et vous marquez un point en Formule 1 au cours de votre vie. C'est ce que le Suédois Slim Borgud peut raconter à ses amis. Voici donc la carrière de Slim Borgud, pilote automobile et batteur avec ABBA. J'essaierai d'inclure quelques des titres de chansons de ABBA, si je peux. Carl Tommy Edward Borgud est né à Borgholm, en Suède, en 1946. Avant de devenir pilote d'automobile, il s'intéressa à la musique. Il fit carrière comme batteur dans quelques groupes musicaux suédois dans les années 60 et 70, comme Solar Plexus, Lea Riders et Made in Sweden, entre autres. Que ce soit dans le genre blues, rock, rock progressif et jazz rock, il était là. Et d'ailleurs, le saviez-vous que vous pouvez écouter son album Funky Formula sur toutes les plateformes musicales disponibles? C'est assez intéressant à entendre. Carl Tommy Edward obtint le surnom de Slim en Nouvelle-Orléans. En effet, le batteur du Willie Dixon Band, Memphis Slim, tomba malade quelques heures avant le début d'un spectacle dans un bar. Or, les amis de Borgud clamèrent à la foule que Tommy, dont c'était le prénom principal, était le meilleur batteur au monde. C'est à ce moment que Willie Dixon accepta que Borgud vienne remplacer Memphis Slim, pour un soir seulement. Depuis cette apparition surprise dans un show de Dixon, Tommy devint Slim Borgud. En plus de sa passion pour la musique, Slim en avait une pour la course automobile. Sa première expérience sur un circuit remonta à 1959 au circuit de Karlskoga en tant que spectateur. Il vit Sir Stirling Moss gagner une course au volant d'une coupe Monaco T49 Climax. Durant cette épreuve, on retrouvait Sir Jack Brabham, Joe Bonnier, Wolfgang von Trips et Jean Béra. Les deux derniers ne purent prendre le départ. Les performances du Britannique impressionnèrent Borgud qui devint ainsi amateur du bruit des moteurs d'une voiture de course ainsi que celui de ses batteries. En 1968, alors qu'un de ses groupes Made in Sweden était en tournée à Londres, Slim rencontra Chris Barber, une légende du jazz qui avait un intérêt exceptionnel pour la course automobile. Il avait des fans en Jim Clark, Ken Tyrrell et Wolfgang von Trips. Barber était un pilote durant ses temps libres, possédant quelques bolides. Or, Borgud lui acheta une Lotus 22 de type Formula Ford afin d'entamer ses débuts dans l'univers du sport automobile. Avant d'attaquer les championnats, Slim s'inscrivit à l'école de course Jim Russell, située au circuit de Snetterton en Angleterre, d'ailleurs source de mes maux de tête quand je joue à Project Cars 2. Avant de retourner en Suède, il participa à quelques épreuves de club et en remporta deux même. Au fil des années, sa carrière de pilote devint de plus en plus sérieuse. Au début des années 70, il prit part à 5 courses de voitures de tourisme qu'il remporta, comme on dit, « winner takes it all ». Ensuite, Borgud se retrouva dans le championnat suédois de touring car entre 1972 et 1975. En plus de cela, il fit ses débuts en monoplace en Formule Ford de 1600 scandinave tout en partageant son temps dans un championnat national de voitures de saloon. Oui, ça existe. Dans lequel il termina vice-champion en 1975. Deux ans plus tôt, il fut sacré champion de Formule Ford. Tout ce succès et les cachets accumulés lui ont permis de louer une Marche 753 au moteur Toyota afin de participer à la dernière course de la saison 1975 de Formule 3 suédoise à Kinnekulle. Tommy se qualifia quatrième à 5 dixièmes de seconde de Conny Anderson qui lui avait prêté la Marche en question. Se qualifier quatrième à sa première course officielle de F3, toutes classes confondues, c'est bien. Mais se placer devant Stefan Johansson et Ronnie Peterson, c'est mieux. Malheureusement pour notre personnage principal, sa première présence en F3 se termina avec un abandon dû à un panne moteur. En 1976, Slim continua à participer à quelques piges en Formule 3. Avec l'aide d'un commanditaire, il put s'inscrire à 4 courses du championnat européen de Formule 3 avec une Viking TH1, dont 2 en sol suédois à Mantorp Park et au Ring Knutstorp. Malheureusement, il ne marqua aucun point. En fait, son meilleur résultat fut une 14e place lors du meeting à Knutstorp. Ce championnat européen fut remporté par Ricardo Patrese, alors que Conny Anderson, celui qui avait prêté une F3 à Borgo en 1975, finit à ex-aequo avec l'Italien. Entre 1977 et 1980, Borgo resta en F3, tout en jumelant les championnats suédois et européens. Cependant, en 1978, il cessa de rouler sporadiquement et fonda sa propre écurie avec une Raalt RT1 vieille de 2 ans. Lors de sa première saison complète en F3 suédoise, il termina 4e au classement final avec 22 points. Heureusement, avec l'aide de commanditaires, Slim parvint à amasser 30 000 livres sterling suffisant pour une deuxième campagne complète dans le championnat de Formule 3 national. Malheureusement, ce n'était pas assez pour mettre la main sur le plus récent châssis de Raalt. Alors, en 1979, il confia la tâche à Chris Shirley de refaçonner sa RT1 afin de se battre pour le titre. N'étant pas présent pour le premier rendez-vous de la saison 79 à Knutstorp, Borgud arriva avec son châssis à Anderstorp, domicile de l'ancien Grand Prix de Formule 1 de Suède. Il parvint à se qualifier en pole position et en plus de remporter la course. Il ajouta une autre victoire à Falkenberg avec une avance de 2,5 secondes sur Torbjörn Carlsson. À la fin de la saison, Slim s'empara du championnat suédois des pilotes avec 28 points, soit 4 de plus que Carlsson, son plus proche rival. Sur la scène européenne, Tommy ne fut clairement pas un figurant. Lors de la même année, le Suédois se présenta contre de futurs pilotes établis comme Mauro Baldi, Michele Alboreto, Harry Lundijk, Thierry Boutsen entre autres. Borgud impressionna les amateurs de Formule 3 en terminant 3e au classement final de la campagne 1979, totalisant 23 points. Le champion de cette cuvée domina totalement avec 7 victoires et 67 points. Son nom, Alain Prost. Le succès de Prost en F3 permit au futur quadruple champion du monde de Formule 1 de signer pour McLaren en 1980. Lors de la même année, quant à Slim Borgud, ses prouesses de Formule 3 suédoise et européenne impressionnèrent Marlboro, commanditaire émérite encore en course automobile. Le cigaretier lui promit l'argent pour financer sa saison de Formule 2. Mais Borgud ne reçut jamais le cachet. Une occasion partie en fumée. Fort probablement déçu que Marlboro n'ait pas, take a chance on him. Slim s'est rabattu vers quelques courses en F3. Sa première course en 80 eut lieu à Monaco. Oui, The Grand Prix de Monaco à Monte Carlo. Là où les boîtes de nuit les plus huppées jouaient probablement Dancing Queen de ABBA. Bon, on s'entend, ce n'est pas pour cette raison que Borgo était présent à la principauté. Au lendemain d'une décevante 16e place aux qualifications, le Suédois monta en classement se retrouvant à la 3e position. Cependant, un accrochage avec une autre voiture ruina toute chance de podium. Avant d'abandonner, il conduisait sa monoplace avec une main sur le volant et l'autre tenant la carrosserie prête à lâcher. Au moins, Borgo put se reprendre deux mois plus tard en terminant 5e au Österreichring lors de la course de soutien du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Même si Marlboro n'a pas rempli sa part de promesses, Borgo eut des contacts dans l'industrie de la musique, dont un qui jouera un rôle important dans la suite de sa carrière. Alors qu'il effectuait des piges avec le groupe folk suédois Utanani Singers, Slim se lia d'amitié avec Born Ulvaeus, un des chanteurs du groupe. Ce dernier invita le pilote à une session d'enregistrement d'un groupe pop local qui, des décennies plus tard, deviendra ultra populaire sur TikTok, ABBA. En même temps, Gunther Schmid, directeur d'écurie et fondateur de Auto Technisches Spezialzubehör, aussi connu sous le nom de ATS, remarqua les prouesses de Borgud et lui offrit un volant en Formule 1 avec son écurie. Il faut noter que ATS n'est pas une équipe qui pouvait aspirer au milieu du peloton. Elle avait acheté le châssis de Team Penske, oui oui, LE Penske, afin de rouler comme propre écurie dès la fin de la saison 1977. C'est en 1980 que ATS décida de s'équiper d'un équipage à deux pilotes, parce que dans le temps, c'était possible d'inscrire une seule monoplace et un seul pilote à un grand prix. Bref, Slim Borgud devait faire ses classes avec une écurie de fond de peloton dans le championnat de course automobile le plus relevé au monde. Le premier Grand Prix de Slim survint à Imola pour le premier Grand Prix de Saint-Marin 1981, qui était une nouvelle course au calendrier. En effet, Imola avait remplacé Monza pour l'accueil du Grand Prix d'Italie 80, le temps que Monza se refasse une beauté. Une chose pouvait empêcher notre personnage principal de se retrouver sur la grille de départ du dimanche, la préqualification. L'étape nécessaire, voire obligatoire, pour se rendre à la prochaine séance qualificative. La grille se limita à 24 participants. Or, comble de joie, Borgud parvint à se qualifier pour la course, en enregistrant le 24e et dernier temps. C'est mieux que de ne pas se qualifier. Il élimina son coéquipier et ancien adversaire en Formule 3, le néerlandais Jan Lammers, ainsi que Derek Daly, Derek Warwick et Brian Hanton. Retenez bien ce nom. Aussi, Lotus déclara forfait de l'épreuve pour châssis non conforme. Pour la petite histoire, Gilles Villeneuve obtint sa deuxième et dernière pole position en carrière. Lors du Grand Prix, Borgud profita de l'abandon de plusieurs pilotes de renom, dont Mario Andretti, Keke Rosberg, Jacques Lafitte et Alain Prost, pour monter au classement. Près de deux heures plus tard, le Suédois termina 13e et dernier à trois tours du vainqueur, Nelson Piquet. Ce fut un bon résultat pour Tommy à sa première présence en Formule 1. Autant pour lui que pour ABBA. Mais pourquoi ABBA? En fait, lors de ce Grand Prix de Saint-Marin inaugural, le logo du célèbre groupe suédois se retrouva sur les pontons de la ATS D5. Contrairement à ce qui pourrait être raconté, le groupe, voire Björn Ulvaeus, a placé le logo avec l'objectif d'attirer plus de commanditaires pour l'écurie allemande. Et non pas parce que ABBA allait sortir l'album The Visitors en novembre 81. Aussi, Gunther Schmidt était un directeur d'équipe assez volubile. Parlez-en à Lammers, dont la relation avec Schmidt se retrouva au point mort. Résultat, Lammers fut remercié par l'équivalent de John Tortorella dans la Ligue nationale de hockey, Amy Borgood comme seul pilote d'ATS. La décision ne rapporta aucunement dans l'immédiat, car le Suédois ne se qualifia pas pour les quatre prochaines épreuves. Il fallut attendre au Grand Prix de Grande-Bretagne pour revoir la ATS flanquée du logo de ABBA sur la grille de départ. Lors des qualifications, Borgood parvint à se placer parmi les 24 premiers participants à l'épreuve de Silverstone. Toujours à bord de sa modeste ATS jaune, il se qualifia 21e devant la Lotus d'Elio De Angelis et envoya un certain Nigel Mansell aux douches, ainsi que Brian Hanton. Retenez bien ce nom. Si Saint-Marin fut une course à attrition, Silverstone s'apprêtait à l'être encore plus. En dépit d'un mauvais départ, Borgood resta en piste, contrairement à Alan Jones, Andrea De Cesaris et Gilles Villeneuve, impliqués dans un accident causé par un tête-à-queue de Villeneuve au troisième tour. Au tour 11, Nelson Piquet, qui était troisième, eut un accident violent avec sa Brabham à la suite d'une explosion d'un pneu avant gauche. Heureusement pour le Brésilien, il s'en sortit avec une légère douleur au pied gauche. Plus les pilotes devant Borgood abandonnèrent, plus le Suédois pouvait espérer se retrouver dans le top 6 afin de marquer des points. Après 68 tours, 15 abandons et un drapeau noir brandi à Elio De Angelis, John Watson sur McLaren remporta un Grand Prix de Bretagne fou. Il s'agissait de la première victoire en 5 ans de Watson, mais aussi la première victoire d'une voiture entièrement construite en fibre de carbone. Fun fact, la victoire numéro 1 de Watson fut en Autriche 76 au volant d'une Penske, écurie que ATS a racheté à la fin de la saison 77. Pour reprendre les mots de MC Gilles, tout est dans tout. Parlant de ATS, le plus important était que Slim Borgood termina 6e, inscrivant ainsi le dernier point disponible dans la course. Cette 6e position fut non seulement importante pour Tommy, mais aussi pour Avon, nouveau fournisseur de pneus d'ATS depuis la dite épreuve britannique. Ce fut aussi la dernière fois que la DS jaune au logo d'ABBA se retrouva dans les points. En effet, Slim Borgood, 34 ans, abandonna en Autriche et en Allemagne, mais termina 10e et ne termina pas les courses en Italie et au Canada. Pour le tout premier Grand Prix de Caesars Palace à Las Vegas, dans le fameux stationnement de cet hôtel, Borgood ne se qualifia pas pour la course du dimanche. Honnêtement, il a bien fait. Quel mauvais circuit! Au bout de 7 Grands Prix pris part, Borgood n'eut qu'un seul point, mais reçut l'appel d'un légendaire directeur d'écurie, Ken Tewell. En 1982, le fondateur de l'écurie éponyme décida de le jumeler avec Michele Alboreto, avec qui Tommy a couru dans les rangs de la F3 européenne. Le premier Grand Prix de la saison 82 fut en Afrique du Sud et elle fut marquée par un sérieux conflit entre la FISA, l'organisation qui gérait la Formule 1 et les autres compétitions automobiles, et la FOCA, un syndicat d'écurie, concernant l'implantation d'une super licence. Hors piste, les pilotes impliqués dans cette guerre FISA-FOCA ont pu apprécier le talent de batteur de notre protagoniste suédois. Ken Tewell, lui, devait être déçu de sa nouvelle embauche. Pourquoi? Parce que Borgood se qualifia 23e sur 26 voitures, alors que Alboreto se plaça 10e sur la grille. Rien pour aider la cause de notre personnage principal, il fit un tête-à-queue au 31e tour. Alain Prost remporta le Grand Prix sud-africain, mais Slim franchit la ligne d'arrivée au 16e rang avec 5 tours de retard sur le Français. Quant à Alboreto, il termina en 7e position. Les choses allèrent mieux pour le pilote suédois. Au Brésil, encore une fois mal qualifié sur la grille en 21e place, Borgud termina 9e. Mais cette 9e place devient une 7e place lorsque Nelson Piquet et Keke Rosberg furent disqualifiés de l'épreuve puisque leur Brabham était en dessous du poids réglementaire. Une disqualification qui fouta le bordel total puisque Tyrrell accusa Ferrari de ne pas avoir ravitaillé Didier Pironi avec la bonne essence. Et la foule brésilienne était furieuse d'apprendre l'exclusion de Piquet qui avait gagné la course et ce fut la suite du conflit entre la FISA et la FOCA résultant à un boycott des écuries affiliées à la FOCA à Saint-Marin. Et on connaît malheureusement la suite pour notre Gilles Villeneuve. Mais avant Imola, la F1 fit un arrêt dans la côte ouest américaine à Long Beach. Même routine. Alboreto se qualifia 12e sur la grille et Borgud 24e. Heureusement, en course, les deux pilotes purent se ressaisir. Alboreto termina 5e, mais Borgud put finir 11e malgré un contact causé par Manfred Winkelhock au premier tour. Comme à Rio, il y a quelques semaines, les deux pilotes gagnèrent une place grâce à une disqualification. Cette fois, le coupable fut Gilles Villeneuve et sa Ferrari à l'aileron arrière digne d'une longue ligne de rasoir. Est-ce un hommage caché à Chewbacca? Le Québécois perdit sa 3e place au classement final. La course à Long Beach fut malheureusement la dernière pour Borgud. En fait, le batteur manquait de money de ses commanditaires et fut remplacé par Brian Hanton qui roulait pour Harrells lors des 3 premières courses de la saison. Je vous l'avais dit de bien retenir le nom, hein? En 10 départs, Borgud obtint un seul point acquis lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1981. Après son expérience en Formule 1, Slim participa à quelques courses à gauche et à droite. En 1984, il retourna dans une Formule 3 dans le cadre du toujours populaire Grand Prix de Macao. Il fut impressionnant avec une belle 2e place en qualification et une 6e place en course. L'année suivante, il retourna sur le circuit de plus de 6 km mais n'eut pas de bol, en terminant 11e. Toujours en 85, il retourna dans une F1 mais dans le nouveau championnat de Formule 3000 créé à la suite de l'abolition de la Formule 2 pour une question de coût. Avec une vieille Arrows A6, le meilleur résultat que Borgud put obtenir fut une 10e place sur le circuit de Vallelunga en Italie. 2 ans plus tard, en 1987, il s'essaya dans l'endurance en tentant de participer aux 24 heures du Mans. Tenter est un bien grand mot, car sa voiture, une Tiguan au moteur Volvo, ne fut aucunement en mesure de se qualifier pour le double tour d'horloge mancéen de 1987. Fun fact! C'est dans cette même édition qu'une équipe 100% canadienne, composée de Richard Spenard, Scott Goodyear et Bill Adam, se retrouva au Mans. Au fil des ans, Borgud participa à plusieurs compétitions automobiles de toutes sortes, dont en tourisme, mais il se caractérisa surtout dans les courses de camions. En 1995, le Suédois remporta la Coupe européenne de la FIA avec une Mercedes, un an après avoir été sacré vice-champion. Aujourd'hui, Slim Borgud est à la retraite, mais a créé sa propre écurie, Slim Racing, participant à des courses dans différentes catégories. On ne peut pas vous donner de nouvelles récentes car sa page Facebook est inactive depuis septembre 2018. Même s'il fut plus que correct dans les voitures destinées à rester en fond de peloton, les Solitary Roll, Slim Borgwood a eu une belle carrière. Entre 1968 et 2009, il a amassé 125 victoires en 380 courses. C'est incroyable! En plus d'être un excellent batteur qui a eu la chance de pratiquer avec ABBA. Si j'étais musicien et pilote aspirant, je souhaiterais certainement avoir le logo de Marie-Pierre Arthur ou de Serena Ryder sur ma monoplace.
Retrouvez tous nos épisodes de Histoire de F1 ainsi que notre balado-diffusion officielle sur bulletingp.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur Instagram @lebulletingp. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine Histoire de F1.